Une nouvelle directrice vient d'être nommée au Muséum de Toulouse, Isabelle Duché.
Et cette nouvelle directrice s'appelle Judith Pargamin. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous arrivez de Lille, vous avez dirigé pendant 16 ans le musée d'histoire naturelle. J'imagine que les hautes températures de ces derniers jours vous ont surprise.
Oui, c'est vrai que ça me change un petit peu, même si finalement, quand on regarde la carte météo, il fait aussi très chaud dans le nord de la France.
C'est vrai.
Je pense que c'est plus un changement climatique global qu'un changement géographique.
Oui, voilà. Et puis, vous allez découvrir cette belle ville rose. Judith Pargamin, vous êtes planétologue de formation et conservatrice en chef du patrimoine. Qu'est-ce que vous retenez justement de cette expérience au musée d'histoire naturelle de Lille?
Donc j'ai dirigé ce musée pendant 16 ans. J'ai eu la chance, en fait, de porter un projet de rénovation que m'ont confié les élus de la ville de Lille. Et du coup, pour moi, ça a été une expérience passionnante d'imaginer la transformation d'un établissement qui était historique, avec des très belles collections, etc. Mais de voir comment est-ce qu'on pouvait le transformer et le rendre plus à la page. Et donc voilà, ce que j'ai appris, c'est un goût de imaginer des évolutions d'établissement et puis convaincre pour les mettre en œuvre. En tout cas, j'ai réussi. Donc.
Oui, vous avez été convaincante. Alors, un projet de rénovation, il n'en est pas forcément, c'est pas forcément l'objet pour le muséum de Toulouse, puisqu'il a été, il a rouvert en 2008 après des grands travaux. Est-ce que néanmoins, vous avez une perspective de restructuration ou de restauration à envisager pour les années à venir?
Alors, effectivement, le muséum de Toulouse a été rénové il y a bientôt 20 ans avec un bâtiment remis à neuf, une scénographie qui est magnifique. Cependant, je pense que c'est le constat qu'on peut faire, c'est que les contenus des expositions aujourd'hui sont peut-être plus tout à fait de la manière dont on a envie de partager la science et les sujets de société avec les visiteurs. Et voilà, mon travail, ça va être avec l'aide de l'équipe, écrire un projet scientifique et culturel, c'est-à-dire un document qui est une feuille de route pour le muséum. Et dans ce périmètre, on va évoquer des transformations de l'exposition permanente et voir de quelle manière on peut les mettre en œuvre ensuite.
Et justement, cette expansion, parce qu'on voit bien que les expositions temporaires, elles font vraiment le pont entre la société et la science. Qu'est-ce que vous voudriez transformer dans l'exposition permanente pour maintenir ces ponts?
En fait, l'exposition permanente actuelle, je trouve qu'elle a à la fois un côté qui est très disciplinaire et scientifique, c'est-à-dire que il y avait une volonté universaliste, il fallait raconter la structure de la Terre, il fallait expliquer la systématique, c'est-à-dire la manière de la classification du vivant. Et bien que ce soit des sujets fondamentaux en science, je ne sais pas si c'est exactement ce dont ont besoin les gens. C'est-à-dire que pour moi, j'ai plutôt envie qu'on aborde les expositions, même permanentes, autour de sujets de société. J'ai envie de montrer que tous ces contenus de sciences naturelles, en fait, concernent les gens dans leur quotidien. Et parfois, je me dis, je ne suis pas sûre que quand je vois une grande expo avec tous ces magnifiques spécimens sur la classification, je ne me dis pas que les gens se sentent touchés au cœur, en fait. Ils se sentent sûrement touchés au cœur esthétiquement, mais voilà. Donc ça, pour moi, ça va être un vrai enjeu de transformation. Et puis peut-être d'aborder, si c'est possible, finalement, les fonds de manière parfois plus transversale, que les choses se répondent aussi.
Vous auriez des exemples ?
De propositions transversales. Par exemple, si on se pose la question, je vais dire un petit peu comme domestique, mais se dire de l'aborder dans un espace permanent et de se poser la question de la manière dont nous, en tant qu'êtres humains, on vit avec les animaux, en fait. Et je dirais qu'il y a plein de sujets. C'est aussi bien des sujets de domestication, mais aussi du rapport à l'animal, de ces animaux sauvages qu'on veut éradiquer parce qu'ils nous, ils nous gênent dans notre vie d'humain.
Et donc là, ou au contraire, qu'on veut réhabiliter.
C'est
le cas de l'ours et du loup.
Oui, en fait, je pensais plutôt, par exemple, aux moustiques. Où globalement, on veut s'en débarrasser. Oui. Je ne parle pas juste du moustique tigre qui est arrivé, enfin, qui n'est pas natif du territoire, mais je veux dire, tout au long de l'histoire de l'homme, on a quand même beaucoup asséché des marais, et notamment pour ce type d'enjeu. Donc, voilà. Et pourtant, le moustique, il a sa place dans les écosystèmes. Et du coup, je pense que ce sujet, en fait, on doit pouvoir l'aborder en convoquant évidemment les collections de zoologie, mais aussi les collections de préhistoire, mais aussi les collections d'ethnographie. Et c'est ça, c'est là où je veux dire, voilà, il y a un intérêt d'être transversal, de ne pas être cantonné dans un champ disciplinaire. Et puis que finalement, les visiteurs arrivent et parce qu'ils vont voir, ils vont se poser des questions et se dire, mais finalement, moi demain ou moi aujourd'hui, quel est mon rapport à l'animal ? Et peut-être parfois faire évoluer la manière de penser les choses. Et je pense que c'est ça le rôle d'un musée de sciences, d'un musée de sciences et sociétés, d'un musée d'histoire naturelle, c'est d'ouvrir le regard de ses visiteurs sur l'environnement.
Est-ce que vous pensez que cette approche transversale, Judith Pargamin, elle est aussi accessible aux enfants? Parce qu'on voit bien les enfants quand ils vont dans un muséum d'histoire naturelle, ils ont des yeux complètement ébahis, ils voient les animaux du plus petit au plus grand. Et est-ce qu'ils entrent dans cette démarche finalement? Est-ce que c'est heureux qu'ils y rentrent?
Alors oui, clairement. Moi, c'est vrai que le public enfant, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé à Lille, et notamment dans le projet de rénovation, en proposant donc un futur espace, hein, puisque le muséum n'a pas réouvert à Lille, mais un futur espace muséal pour les 0-3 ans. Donc autant vous dire que je suis persuadée que on n'est jamais trop jeune pour commencer à s'intéresser à l'histoire naturelle, évidemment par des axes précis. Donc en fait, pour moi, enfin, il y a plein de réponses à apporter. Je pense qu'on peut avoir des expositions avec différents niveaux de lecture, avec des espaces, des cartels spécifiques pour le jeune public, des parcours spécifiques. Et puis, en fait, l'intérêt d'avoir finalement une exposition qui n'est pas forcément linéaire, comme c'est le cas aujourd'hui, où finalement on aborde les choses
par thématique.
C'est aussi de se dire que peut-être on a des espaces d'exposition avec des thématiques qui sont plus adaptées aux plus jeunes, et ça permet aussi d'avoir une diversité d'offres et d'approches dans le parcours muséal. Oui.
Donc, dans votre projet scientifique et culturel pour le Muséum de Toulouse, c'est un peu ça que vous voudriez faire, peut-être des espaces qui sont spécifiques par tranche d'âge, si on peut dire.
Pas forcément spécifiquement d'avoir ce découpage, mais en tout cas d'essayer d'intégrer des espaces où on va aborder les choses pour les plus jeunes. Parfois, c'est aussi juste des questions d'accessibilité, c'est-à-dire que si vous avez des vitrines où les spécimens sont présentés à 1 mètre de haut, et ben en fait, tous les enfants de moins de 6-7 ans, en fait, ils voient rien. Et donc, il faut intégrer aussi qu'ils puissent au moins porter le regard. Et ensuite, les spécimens, notamment d'histoire naturelle, ce qui est aussi formidable, c'est qu'on peut leur faire dire plein de choses. C'est-à-dire que vous pouvez montrer... Vous pouvez montrer un loup ou un ours, et sur l'ours, bah, typiquement, l'ours, c'est quand même une figure classique des histoires pour enfants.
Ah oui.
Donc, c'est une première approche, c'est une approche de la représentation dans quelque chose dont l'enfant est, avec lequel l'enfant est familier. Mais c'est aussi de porter un discours sur la place de l'ours dans les montagnes, dans les Pyrénées, sur sa présence, et puis finalement, aujourd'hui... une disparition, une espèce qu'on essaye de maintenir. Et puis, pour les plus âgés, bah, c'est porter tout le discours sociétal et politique sur la place de l'ours par rapport à l'agro-pastoralité. Enfin, voilà, en fait, un même spécimen, il peut être au centre de plein de discours. Et c'est là aussi tout le rôle des équipes d'exposition et des équipes de médiation, d'être capables, finalement, à partir de spécimens, de construire beaucoup de discours.
Et d'avoir beaucoup d'approches.
Ce qui fait qu'en fait, on n'est pas obligé de... Je pense qu'on n'est pas obligé de fermer un discours unique et une approche unique dans un espace, parce qu'en réalité, on a tout plein de choses dans lesquelles on peut piocher pour la pluralité des visions.
Quelle est pour vous, Judith Pargamin, la place du muséum dans cette ville de Toulouse, mais plus largement dans cette région ex-Midi-Pyrénées?
Alors, c'est le principal muséum de la région. En tout cas, sur la place de Toulouse, je pense que alors j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que quand je dis aux gens que je travaille au muséum, tout le monde a une excellente image du lieu. Et voilà, et je comprends que c'est aussi le lieu des souvenirs d'enfance, souvent, le lieu où on va transmettre des choses aussi à ses propres enfants. Et donc voilà, il y a ce rapport qui est très fort. Après, je pense que c'est un établissement, je pense que les Toulousains s'en rendent compte, mais qui est vraiment de premier plan hein, au niveau national. C'est quand même le deuxième muséum après Paris, avec des collections absolument extraordinaires et puis une fréquentation qui est excellente.
310 202 visiteurs en 2025.
Voilà, exactement. C'est quand même colossal quand on y pense. Et puis, des expositions qui tournent dans l'Europe, dans le monde entier, en fait. Donc voilà, c'est un établissement avec un énorme rayonnement. Et puis, c'est vrai que c'est un établissement qui est aussi un modèle pour d'autres muséums du territoire plus petits. Donc voilà, c'est toutes ces facettes qu'il va falloir continuer à développer, à maintenir.
Et à faire dialoguer, alors, avec, avec ces autres musées.
Tout à fait, ouais. Oui.
Ouais, la feuille de route est grande. Hein,
la feuille de route est grande et puis surtout la feuille de route, c'est quelque chose qui va se faire collectivement. Enfin, moi, je viens pas avec une vision en disant
à plaquer.
Ça va être comme ça. C'est des choses qu'on va travailler. On rentre aussi dans un nouveau mandat pour la métropole. Donc, c'est des nouveaux élus, c'est comprendre aussi quelles sont les attentes.
Oui, oui, parce que vous travaillez non seulement avec les équipes du muséum, mais aussi avec toute la direction de la culture scientifique et puis de Toulouse Métropole.
Oui, tout à fait, exactement. On est un établissement métropolitain et donc à ce titre, on rend un service public aussi. Donc c'est très important pour nous aussi, de s'adresser à tous, de tenir compte de toute la diversité des gens qui habitent dans cette métropole. Mmh.
Vous succédez à Francis Duranton qui était entré au muséum en 1982. Il y a eu beaucoup de il y a eu un développement du muséum, une rénovation, on l'a dit, et puis des expositions qui ont vraiment rencontré leur public, l'exposition Géant qui a reçu 148 000 visiteurs. Là, actuellement, c'est encore l'exposition Domestique Moi avec pour l'instant 116 000 1402 visiteurs, elle est visible jusqu'au mois de juillet, au 5 juillet. Oui. Est-ce que vous avez déjà des envies, des idées d'expositions temporaires qui pourraient rester dans cette ligne-là et qui rencontrent ce succès-là?
Alors, c'est pas un chantier sur lequel j'ai encore travaillé. Hein, ça fait 6 semaines que je suis là. Donc, il y a un vrai sujet de commencer à travailler les prochaines expositions. Cela dit, en fait, les équipes travaillent à quasiment 3 ans, en fait. Donc, on a déjà finalisé l'exposition qui va ouvrir à la rentrée. Et puis, les expositions suivantes sont déjà complètement en cours de travail. Donc, c'est un travail au long cours. Et en même temps, c'est tant mieux parce que j'ai pas envie d'arriver avec un sujet dans les poches, encore une fois, en disant faisons ci, faisons ça. J'ai envie de voir. Mais c'est vrai que, j'aime bien les sujets, encore une fois, plutôt transversaux, plutôt qui questionnent des questions de sujets de société ou des sujets de représentation et de regard. Voilà, à voir. J'ai plein d'idées, mais pour l'instant, c'est à travailler.
Allez, ce sera à découvrir. Cette nouvelle exposition qui va ouvrir en septembre, donc à la rentrée. Juste un mot pour
octobre.
Début octobre.
Alors, c'est une exposition qui s'appelle Minéraux, bien plus que des cailloux. C'est un projet d'exposition qui a été développé par le Musée des Confluences, avec qui on a des partenariats réguliers à Lyon. Mais où, finalement, dans un discours et puis une recherche sur les minéraux au sens large, le Muséum de Toulouse va à la fois mettre en valeur sa propre collection, qui est très riche et très belle. Et puis, on a même un petit peu poussé le propos de l'exposition sur des sujets vraiment de société. Et donc, on va parler non seulement de la minéralogie, pour parler de la beauté et de la diversité des minéraux, mais attirer le regard du visiteur sur la place qu'ils tiennent aujourd'hui dans notre société. Et en fait, l'exploitation minérale c'est elle qui nous permet d'avoir des smartphones, de faire fonctionner cette radio, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on avait envie de raconter.
Donc ce sera à découvrir à partir du mois d'octobre. Merci Judith Pargamin. Merci. Je rappelle que vous êtes la nouvelle directrice du Muséum de Toulouse et donc bienvenue à Toulouse.
Merci beaucoup.